Bonjour à tous. Merci d'être à l'écoute de cette émission. Un gros programme pour vous. On va parler d'école à la maison, une tendance qui se confirme au Québec. On va aussi, en deuxième heure d'émission, vous proposer de relever avec moi un défi. J'ai accepté d'être ambassadrice pour la nouvelle campagne de réduction des déchets au Québec. Une des ambassadeurs et ambassadrices. Donc, je vais vous proposer de relever avec moi ce défi-là. Est-ce qu'on est capable collectivement et sur une base personnelle de réduire la somme de déchets qu'on produit? Vous savez qu'on est des gros producteurs de déchets au Québec. Nos déchets de table, on recycle beaucoup, mais pourtant, on jette encore beaucoup. On n'a pas toujours tendance à récupérer aussi les objets, les choses qui nous entourent. Donc, on va essayer de voir comment on peut faire mieux tout à l'heure. Et je sais que l'environnement, c'est un mot-clé qui vous intéresse particulièrement. Et on terminera avec des trucs pour vraiment nous montrer comment respirer par le nez. Je recevrai Nicole Bordelot, qui est maître en yoga et méditation, qui vient de publier un nouveau livre qui s'intitule « Respire ». Ça a été quasiment une révélation. J'ai lu ça hier soir, puis je me suis rendu compte que, mon Dieu, on est donc souvent en apnée. Tu sais, en apnée, là, tu n'as pas de respiration. Cela dit, juste un petit mot pour vous dire qu'hier soir, à 5h30, je passais au centre-ville et il y avait du monde. Je ne sais pas qu'est-ce qui respirait. En tout cas, il respirait par le nez ou par la bouche. Ou en tout cas, il y avait certainement l'intention d'inhaler parce que j'en reviens pas. Fallait que je vous le dise. Je sais que tout le monde n'en revient pas non plus, mais il y avait une queue. J'ai jamais vu ça. Il y avait même des quarts de reportage de stations américaines. Il y avait NBC, il y avait CBS qui était là. Je me disais, voyons, mais c'est quoi? Puis j'avais comme oublié que c'était pour la Société québécoise de cannabis. Mais c'était là. Écoutez, je pense qu'il y avait des milliers de personnes. Je vous le jure, des milliers de personnes. Ça faisait Sainte-Catherine, tout un coin de Sainte-Catherine. Ça tournait le coin jusqu'à quasiment à la cathédrale Reine-Marie-du-Mont. Aïe, aïe, aïe. Et c'est fascinant. Qu'est-ce qu'ils font, ce monde-là, la journée? Tu sais, il était 5h30, tu peux te dire, bon, peut-être que c'est là de la sortie des bureaux. Moi, ça me fascinait, sincèrement, ça me fascinait. C'était une petite parenthèse comme ça. Je vais vous présenter mes invités tout de suite parce que nous allons parler de cette tendance de l'école à la maison. Ça tombe bien parce qu'encore ce matin, dans le journal, je voyais là qu'il y avait une commission scolaire, la deuxième plus importante au Québec, la commission scolaire Marguerite Bourgeois, la CSMB, qui a décidé que, contrairement à ce que la loi sur l'éducation dit, il n'était pas question de prendre de nouveaux élèves parce qu'ils n'ont plus de place, ils n'ont pas assez d'enseignants. Donc, ils disent, regarde, nous, c'est fini, là. C'est comme on barre les portes. Personne rentre, là. La directrice dit, on n'arrivera pas à la rentrée de l'année prochaine. Donc, voilà, on ne prend pas de nouveaux élèves. Donc, ils ont adopté une résolution la semaine dernière. Ils ouvrent plus de nouveaux groupes dans les écoles à partir de maintenant. C'est quand même assez important. Et quand je vous parle pénurie d'enseignants, locaux vétustes, les toits qui coulent, il n'y a pas de clim. Il fait chaud maintenant. On le sait que les changements climatiques font de plus en plus chaud pendant les jours de classe. Là, les parents regardent ça puis se disent, hey, « Je veux-tu que mon enfant subisse son école? » Nonobstant le fait qu'il y a aussi tout le dossier, est-ce que l'école fit à tout le monde? Est-ce que, des fois, on a l'impression que c'est une sentence vie quasiment, que tu purges, là, tu sais, tu rentres à l'école à 6 ans, tu sors à 16, t'en vas peut-être au cégep, quoi qu'à 16 ans, si t'as l'impression d'avoir purgé une sentence de prison, ça te tentera pas de poursuivre après, d'où peut-être le haut taux de décrochage qu'on a au Québec. Tout ça est lié. Et là, la tendance dont je vous parle ce matin avec mes invités que je vais vous présenter à l'instant, c'est l'école à la maison. Remarquez qu'au Québec, on avait un petit retard. À peu près dans tous les pays occidentaux, il y a à peu près 3 % des parents qui disent « ben moi, je fais l'école à mon enfant ». Chez nous, au Québec, c'était beaucoup moins que ça, c'était autour d'un pour cent. Sauf que là, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui décident de le faire. Un, par exemple, qui a décidé de le faire pour son fils, c'est Joël Monzé, que vous connaissez bien, docteur en neurosciences, directeur de l'Institut du développement de l'enfant et de la famille. Bonjour, Joël.
Bonjour.
Ton dernier livre s'intitule « Et si on les laissait vivre, accompagner avec bienveillance les enfants, les adolescents », on s'en était parlé.
Oui.
Toi, ton fils est en deuxième année, c'est ça?
En fait, il est en troisième année.
En troisième année.
Il fait la troisième, quatrième en un an. Ça faisait partie de notre programme que l'on avait avec lui. Il fait partie des enfants qu'on pourrait catégoriser comme doués. Il faut savoir que les enfants doués, souvent, sont laissés pour compte dans une école. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'attention et c'est nécessaire pour les enfants qui ont de la difficulté à pouvoir apprendre. On constate actuellement qu'il y a 3 fois plus de décrocheurs chez les enfants doués que chez les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc, moi, j'avais pas à demander à l'école.
On n'a pas le temps de s'en occuper, c'est ça?
Non. Et puis, les techniques d'éducation ne le permettent pas toujours. Quand on fait du co-enseignement, par exemple, dans une classe, on peut permettre justement aux enfants qui ont ce genre de caractéristiques-là de participer. Et le fait d'expliquer à d'autres enfants comment ça marche, ben, pour eux, ils se ravive un tout petit peu ça. Mais dans notre cas, c'était pas ça qu'on nous a proposé, ce qui fait qu'on a préféré pendant 2 ans, au moins, retirer l'enfant du système.
Thierry Pardot également a 2 enfants qui sont entrés à l'école pour la première fois cet automne avec... toutes les difficultés d'acclimatation, j'imagine, Thierry, que ça sous-entend, parce que vos enfants ont 8 et 12 ans. Ils n'étaient jamais allés à l'école jusqu'en septembre dernier. Là, c'est un jugement de cour qui est venu un peu changer les choses. Merci d'être avec nous. Expliquez-nous un peu votre situation familiale.
Oui, ben en fait, nous, on est des parents séparés depuis 3 ans et demi. Et on avait subi plusieurs procédures juridiques autour de cette question-là, parce que la mère des enfants souhaitait que les enfants aillent à l'école. Les enfants ne le voulaient pas. Il y a eu des enquêtes psychosociales, il y a eu tout ça, qui ont recommandé que les enfants n'y aillent pas. Il y avait plusieurs jugements qui disaient que les enfants, c'était bien qu'ils n'y aillent pas non plus. Mais finalement, une décision finale est tombée d'une juge qui a renversé tout ça contre l'avis des enfants et tout ça. Et
donc, ils ont été forcés d'aller à l'école. Donc là, c'est depuis septembre, depuis deux mois.
C'est ça, et ils sont forcés d'aller. Ils sont dans une école alternative, mais ils sont quand même forcés d'y aller. Donc, avec une contrainte, je veux dire, ça reste un espace contraint, ça reste des horaires contraints, un calendrier contraint, un programme contraint, des relations contraintes. Donc, je sais que souvent... On a l'habitude de qualifier les écoles alternatives comme des espaces de liberté, mais pour eux, c'est vraiment une perte de liberté par rapport à ce qu'ils connaissaient avant.
Et c'est vous qui faisiez l'école à la maison? Parce que vous êtes d'ailleurs détenteur d'un doctorat en éducation. Vous avez écrit une éducation sans école il y a quelques années, donc vous êtes quand même assez spécialisé dans la chose. C'est pas le cas de tous les parents, forcément.
Ça a été réédité en 2017.
Oui, exactement.
Augmenté. Alors, en fait, c'est ça, il y a un spectre. Quand on prend le phénomène d'une éducation sans école, il y a à un bout du spectre, il y a des gens qui font vraiment l'école à la maison, c'est-à-dire qui reproduisent finalement l'enseignement scolaire dans le cadre du logement. Mais il y a un autre bout à l'autre bout du spectre, il y a ce qu'on appelle le unschooling, avec des gens qui, si on veut le comprendre en une phrase, c'est comme quand vous voyagez avec vos enfants, vous ne faites pas un programme, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas d'évaluation. Et pourtant, quand les enfants reviennent, on sait qu'ils ont appris tout un tas de choses, même si on ne s'est jamais posé autour d'un cahier.
Voilà. Donc comment ça marchait pour vos enfants là, de 8 et surtout 12 ans peut-être? Celui de 8 ans, bon, à la rigueur... Première, deuxième, troisième année, c'est ça, jusqu'à 8 ans. Puis le plus vieux, lui, a eu quand même plus d'années à la maison.
Oui. Mais disons qu'on...
En apprentissage, non. Ce que je comprends, c'est que c'est pas noté, il a pas fait d'examen, de quiz, de whatever, de tout ce qui peut être fait à l'école.
C'est-à-dire qu'on est attentif, en fait, aux intérêts des enfants, à leurs besoins, à la fois leur rythme chronobiologique, etc., mais aussi leurs intérêts. Et le jour où ils se passionnent pour quelque chose, eh bien, on les laisse se passionner pendant des heures s'il faut. Il n'y a pas une cloche qui sonne pour dire qu'il faut passer à autre chose.
Même si c'est des jeux vidéo, puis des...
Alors, ça peut être des jeux vidéo, mais ça peut être la BD. Moi, mon grand est passionné de BD. Par exemple, ils ont été bénévoles tous les deux au festival de la BD l'an dernier, etc. Donc, voilà, on y va par la passion des enfants, par leur rythme, etc. Et donc, on n'a pas tant besoin que ça de s'asseoir autour d'une table avec des professeurs et à suivre un programme.
C'est sûr qu'il doit avoir un gros choc, là.
Alors il y a un choc, même
méchant choc.
Oui, c'est ça. Ils ont quand même dans cette école là une liberté de circulation, ce qui est pas dans toutes les écoles. Alors évidemment ça c'est quand même beaucoup mais ça reste que les enfants sont quand même globalement, à mon sens, considérés un peu comme des irresponsables. C'est-à-dire, par exemple, il peut y avoir la personne du service de garde qui va s'obstiner avec lui pour lui dire « mets ta veste », tu sais. Par exemple, c'est... voilà. Et donc, je veux dire, ça veut dire que la sensation même physique de l'enfant est disqualifiée au profit de la sensation de l'adulte qui, elle, est valorisée.
Tellement.
Voilà. Dès qu'un enfant grimpe, court ou bricole quelque chose, on va le recadrer, quoi.
J'aime ça, votre expression « liberté de circulation ». On va y revenir, si vous voulez. Bien, je vais présenter notre autre invitée, Claudine Potvin, qui est orthopédagogue. Bonjour, Claudine.
Bonjour, Isabelle.
Directrice des centres pédagogiques accompagnement scolaire. Toi, tu fais un peu ce qu'on appelle, avec tes enseignants, l'éducation à la maison, c'est-à-dire l'école à la maison. Comment tu vois ça, toi, Claudine?
Bien, tout d'abord, nous, on le fait depuis plusieurs années. Je te dirais que depuis les 5 dernières années, effectivement, c'est une nouvelle vague encore plus.
Il y a plus de
clients,
là, hein?
Oui. Pour plusieurs raisons. Il faut quand même savoir que il y a des élèves vraiment enfants qui ne sont pas faits pour le milieu scolaire et ça arrivera tout le temps, quand même qu'on changerait l'école à chaque année.
On dirait qu'il y en a plus.
Ben, naturellement, il y a la pénurie, il y a aussi des élèves qui sont de plus en plus diagnostiqués tôt, effectivement les élèves qui sont plus doués, qui sont laissés pour compte aussi, et les élèves pour qui le rythme, au lieu justement de redoubler, de se retrouver dans des classes spéciales, ben en étant suivi à leur rythme,
dans un ratio de 1 à 1 aussi.
Exactement,
hein?
Exactement.
Et on fait des miracles. Et non pas de 32 à 1.
Exactement. Ouais. Alors, donc, au lieu de mettre justement un élève en trouble d'apprentissage ou en difficulté scolaire pour raison X dans des réalités d'échec, dans des réalités où là, le parent va se faire rencontrer par la psychologue, la direction d'école, la TES, etc., l'orthopédagogue, pour se faire rediriger vers une classe spéciale où souvent on va aussi trouver des élèves en trouble de comportement ou toutes sortes de réalités. Et ces classes-là ont lieu d'être aussi, soit dit en passant, mais il y a des parents qui peuvent se le permettre et qui vont dire, bon, ben écoute, moi, je veux faire l'école à la maison.
Mais il y en a quand même de plus en plus, et Joël,
il y en a de plus en plus,
qu'on réponde à cette question, parce que je vais la poser aux auditeurs également, puis à la lumière de ce que je vous ai dit tout à l'heure, des écoles qui vont fermer leurs portes en disant, nous, on n'y arrive plus, donc on ne prendra pas de nouveaux étudiants, de nouveaux jeunes. Là. C'est quand même pas rien de voir ça au Québec où notre système d'éducation, il a beaucoup évolué. On est dans un système où le privé prend de plus en plus de place, où les programmes spéciaux attirent de plus en plus les parents qui se rendent compte que le public, entre guillemets, standard ou ordinaire, ça fait pas l'affaire, ça fait pas leur affaire forcément, celui de leur enfant. Est-ce que c'est l'échec du système public, Joël Manzé?
Je sais pas si c'est l'échec du système public parce que je crois pas que les écoles privées ou semi-privées ne rencontrent pas ce même genre de problème-là.
Exactement.
Sauf que ce genre d'élèves risquent peut-être d'être
du système
invités.
D'éducation, disons.
Mais je pense que c'est la logique administrative qui est à questionner. On a ça dans l'ensemble de systèmes, que ce soit sur la logique des routes, la logique du système de santé. On a des monstres au niveau ministériel et ces monstres-là qui sont de moins en moins connectés avec la réalité du terrain. On essaye de simplifier les choses, on essaye de rationaliser les choses, mais en même temps, sur le terrain, ça marche de moins en moins. Pourquoi? Parce que c'est devenu tentaculaire, les ministères, et c'est là que ça devient difficile.
Oui, mais pourquoi? Juste à cause de la bureaucratie?
Mais je dirais pas la bureaucratie pour la bureaucratie, mais la volonté peut-être d'avoir voulu uniformiser. Je pense que un enseignant, il sait quoi faire dans sa classe. Mais si on le conditionne à enseigner d'une certaine manière, par exemple, j'ai enseigné pendant plusieurs années, pour moi, des classes flexibles, si j'enseignais aujourd'hui, je suis très à l'aise avec cet environnement-là qui répond très bien aux enfants. Mmh. Mais si j'étais un professeur qui avait besoin d'une rectitude, d'avoir des enfants en randonnion et autres, je fonctionnerais pas dans un système comme une classe flexible. Donc, je pense que les programmes, parfois, ne répondent pas toujours nécessairement à la réalité des enfants. Je prends un exemple. On sait que 20% des enfants ne sont latéralisés que vers 7 ans. Autrement dit, leur cerveau...
Latéralisé.
Ça veut dire que... Est-ce qu'ils sont droitiers ou gauchers? Un vrai droitier, dans 70% des cas, c'est à ce moment-là, il le sait à 5 ans. Un vrai gaucher, il le sait à 5 ans, 10% des cas. Mais il y a 20% d'enfants qui sont des faux droitiers. Par imitation, ils vont observer les autres, ils vont prendre éventuellement un crayon à la main droite, et à ce moment-là, au moment où ils commencent à avoir des difficultés dans la lecture, souvent c'est parce qu'ils ont un référentiel corporel, ils sont gauchers, et un référentiel manuel, on leur a appris à écrire de la main droite. Donc ce sont beaucoup d'enfants qui vont rencontrer des difficultés au niveau des apprentissages.
Mais est-ce qu'on fait ça encore dans son école? Tout le monde écrivait de votre main droite?
Non, ce n'est pas une question de forcer comme on le faisait anciennement. Ce qu'il y a, c'est par imitation.
Ça fait des années que ça n'existe plus, ça. Et en milieu scolaire, là, pour enseigner dans deux commissions scolaires, premièrement, les enseignants n'ont pas une rectitude. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu arrives en milieu d'année scolaire, tu as, mettons, 27 étudiants. Chaque année, c'est différent. Alors, tu te dois de composer avec la cuvée d'élèves, si je peux me permettre, que tu as.
Ouais.
Alors, c'est pas, on te dit pas comment enseigner. À partir du moment où l'élève est dans sa classe, il ferme sa porte, il peut prendre les rangs d'oignons, c'est pas obligatoire. De toute façon, ça existe presque plus, les rangs d'oignons.
Il y a quand même un contexte rigide.
Ben, il y a un contexte de classe.
Thierry Pardo là-dessus. Thierry?
C'est-à-dire que la question, à mon avis, elle n'est pas tant de savoir si le système est public ou privé, etc.
C'est le système d'éducation.
C'est-à-dire que
tout le monde dans la même classe qui entend l'enseignement donné d'un peu de la même manière. Il y a quand même une espèce d'uniformisation
vont s'adapter à plusieurs. Te faire témoigner des enseignants qui ont plusieurs élèves.
J'aimerais entendre Thierry Pardo.
Oui, c'est gentil, merci. C'est-à-dire qu'un enfant qui va à l'école, par exemple de 10 ans aujourd'hui, il choisit pas en général le fait d'aller à l'école, il choisit souvent pas son école. Bien il ne choisit pas son calendrier scolaire, il ne choisit pas ses horaires, il ne choisit pas sa classe, il ne choisit pas sa place, il ne choisit pas le programme, les méthodes d'enseignement, s'il va être évalué ou pas. Il ne choisit pas comment il va être évalué, il ne choisit pas la couleur du stylo avec laquelle il va remplir son évaluation. Alors on nous explique que ça...
Même les parents ne choisissent pas ça.
Et les parents non plus.
Alors, on reçoit la liste.
Voilà, ouais. Et c'est ça. Et alors c'est vraiment ça le nœud du problème, c'est que les parents... S'étant engouffrés dans des vies où ils se disent qu'ils n'ont pas le choix, ils pensent que leur travail de parents, c'est de convaincre leurs enfants d'être dans des vies où ils n'ont pas le choix non plus. Et donc finalement, ces vies-là où finalement on pense qu'on n'a pas le choix, devient la norme en fait. Et du coup, l'enfant intègre le fait que dans la vie, finalement, j'ai à faire ce qu'on me dit, etc. Et moi, mes enfants me le disent, ils disent « Ah, les professeurs sont gentils, etc. » Le problème, c'est qu'on n'a jamais le choix de faire autre chose que ce qu'on nous demande. C'est-à-dire que voilà, c'est...
Bon, il y en a beaucoup qui vont vous entendre, Thierry, puis on va aller à la pause là-dessus, puis qui disent, ben oui, ben c'est ça la vie. T'as pas le choix toujours de faire ce que tu veux faire.
Mais ça fait partie de la... Parce qu'à l'école, tu n'apprends pas que tu apprends le savoir-faire. Tu apprends le savoir-être aussi. Donc, on a un encadrement toute notre vie.
On aimerait avoir un peu plus de savoir-vivre aussi
sur le travail, tu sais. Non, mais c'est ça.
T'apprends à s'asseoir, à te taire et à parler quand on te donne la parole, mais c'est tout.
C'est ça. Exactement.
Il y a une très belle chanson de Francis Cabrel, Surprendre sa place dans le trafic, qui résume ce que vous disiez.
Mais là, malheureusement, je suis obligée de commettre l'enseignante ici, là. Alors, allez à la pause, mes amis. Je vous rappelle à la discipline. Mais ça va bien jusqu'à maintenant. On va aller à la pause. On va demander à nos auditeurs ce qu'ils en pensent. L'école à la maison, c'est une tendance de plus en plus marquée au Québec. Est-ce que vous pensez que c'est un peu aussi un symptôme de notre système d'éducation de plus en plus bancal? Un système qui fait de moins en moins l'affaire des parents et probablement de ceux qui suivent aussi, c'est-à-dire les jeunes. On va parler également à Noémie Berlus, qui est présidente de l'Association québécoise pour l'éducation à domicile, tout de suite après ceci, pour nous joindre. 514-790-9850. Et pour nous joindre sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Bonjour, on va commencer avec Stéphanie, parce qu'on trouvait que c'était intéressant, Stéphanie. Vous songez à envoyer vos enfants, c'est-à-dire, vous songez à les envoyer chez vous, finalement, parce que c'est l'école à la maison. Vous voyez l'habitude qu'on a de dire envoyer ces jeunes à l'école. Vous, l'école, ce serait chez vous, peut-être.
Ben, écoutez... Premièrement, je trouve que l'horaire qu'on impose à nos enfants, je vais parler objectivement de ce que je vis en ce moment avec mon petit Léo qui est à la maternelle.
Ouais.
L'école commence à 7h55 et termine à 3h.
Ouais.
La plupart des parents ne terminent pas de travailler à 3h, fait qu'en plus, ils doivent aller au service de garde. Donc, c'est quasiment un horaire de 8h qui sont à l'école. Ouais. Et là, en plus, à l'école, c'est le silence dans le corridor. C'est en rang. Et là, au service de garde aussi, ça reste toujours comme laissons les enfants être des enfants. Tu sais, un petit garçon qui bouge trop, ben on lui coupe la récréation, on le garde à l'intérieur. Il y a comme un manque d'ouverture, les compétences. Non, moi, je commence vraiment avec ma cousine. On commence sérieusement à y penser.
Êtes-vous en train de vous organiser une classe, peut-être, là? Tu sais, on est bon à s'organiser des équipes de hockey. Hein?
Ouais,
tu peux enseigner à ton enfant, mais pas aux autres.
Pardon?
Les écoles alternatives, malheureusement, il n'y en a pas dans notre région.
Ouais.
Et là, on se demande si est-ce qu'on peut combiner nos enfants et le faire à deux.
Mm-hmm.
Tu sais, nous reste quelques questions légales à voir, mais tu sais...
Claudine Potvin, mon invitée, vient de dire, Stéphanie, restez là, elle vient de dire, elle est orthopédagogue, je rappelle qu'elle est directrice des centres pédagogiques accompagnement scolaire, tu dis...
Faut vraiment s'informer, tu peux enseigner à ton enfant,
mais
chez
pas
toi,
aux autres, tu dis.
Mais pas aux autres, tu ne peux pas te faire une mini-école, ben, tu peux, mais il faut que tu demandes un permis
au ministère. Ok, tu veux dire légalement, là, c'est ça.
Oui, il faut que tu demandes, il faut que tu passes à travers un processus en tant qu'enseignement, en établissement d'enseignement privé. Alors, à la maison, il n'y a pas de problème.
Oui, Stéphanie, allez-y, si vous avez des questions, on est là pour y répondre.
C'est drôle parce que hier, on a passé quasiment la nuit à regarder les certificats en enseignement. Parce que moi, je suis photographe, donc tu sais, j'ai aucune base. J'ai un AEC en éducation à l'enfance. Et ça m'a un peu découragée pour être professeur au Québec.
Pourquoi?
J'ai 40 ans. Fait, mais, si tu veux combiner travail et études en certificat, écoute, je me suis un peu perdue hier, donc j'ai demandé des conseils à la TELUC pour en orientation. Parce que, Ouais, sinon ça me prendrait 12 ans, je demanderais mon chèque de pension.
Mais vous n'êtes pas obligée, madame, d'être en enseignement. Vous n'êtes pas obligée d'être enseignante ou d'aller chercher un certificat ou une qualification quelconque pour enseigner à votre enfant. C'est juste que si vous voulez vous mettre justement avec une copine qui n'est pas aussi en enseignement ou avec une cousine ou avec une amie et de faire 3, 4, 5 élèves dans, chez vous, dans votre cuisine, vous ne pouvez pas le faire sans, pas parce que vous n'êtes pas diplômée en enseignement, mais parce que vous devez avoir un permis d'établissement d'enseignement privé. Alors, et là, il y a un processus, mais vous n'êtes pas obligé d'être enseignante.
Ouais, ben oui, mais du monde qui s'achète des CPE, là, ça ne va pas être compliqué. Mm-hmm. On a vu que n'importe qui peut s'acheter un CPE selon l'histoire.
Puis encore là, c'est un encadrement qu'on fait si on peut, de la société pour pas qu'il y ait du n'importe
quoi. Thierry Pardo.
Oui, merci. En fait, ce qui est important à comprendre, c'est que quand on décide de ne pas envoyer ses enfants à l'école, il y a une vie à s'inventer. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une, on n'est pas en concurrence avec la liberté de nos enfants.
Ouais.
Au début, on ne sait pas faire parce qu'on n'a pas l'habitude de gérer tous ses temps libres, etc. Alors, c'est un peu comme quand on devient végétarien, tu sais, la première fois, on ne sait pas trop, on va au McDo, on prend que les frites, là, tu sais, voilà, parce qu'on ne sait pas faire. Mais au bout d'un moment, on sait tout comment ça marche. Alors, le plus compliqué n'est pas de déscolariser les enfants. Le plus compliqué, c'est de déscolariser les parents, en fait. C'est-à-dire dans leur façon d'intervenir avec leurs enfants.
Il y a quand même un minimum de cadre, de choses à savoir, n'est-ce pas, Joël? Mais
là, n'empêche pas l'autre. Là, n'empêche pas l'autre. Il y a plusieurs manières d'apprendre ce fameux cadre. On peut le faire avec des activités sportives comme une école de ski ou comme une école de karaté ou d'eau ou de la natation. On peut quand même permettre la socialisation, l'apprentissage des cadres de cette manière-là.
Les maths, le français, l'anglais, la géo, tout ça. Comment ton enfant va apprendre ça, parce que là, il y a 8 ans.
Oui, ben pour notre choix.
Ton fils, c'est un surdoué, fait que
ben oui, c'est ça. Et puis
tu donnes le dictionnaire, c'est correct.
mais l'autre chose aussi, c'est que on a fait le choix parce que j'ai un bac en enseignement, mais je ne voulais pas avoir ce rôle-là comme papa envers mon enfant.
Ouais.
Moi-même, et en ayant souffert en tant qu'enfant face à une mère, même si j'étais scolarisé dans les écoles, ça reste que j'avais plus une
main
institutrice à l'école,
même pour les devoirs,
à la maison qu'une maman.
Ouais.
Mais donc, je voulais pas reproduire ce modèle-là. Par contre, on a engagé 2 jours/semaine une jeune enseignante qui est à mi-temps dans le système public.
Comme
et qui enseignait. Je t'avouerai, il faudrait que je regarde. C'est $30 peut-être à l'heure.
Non, mais à l'année, combien ça te coûte pour
je
faire?
Je sais pas. J'ai pas fait les calculs.
Mais voyons donc, tu sais pas.
Non.
Bon, ben, calcule.
Non,
pendant
je ferai le calcul. Je ferai le calcul.
On parle entre
mais ce qu'il y a.
6 000 et 12 000 $.
Et c'est pas
pour avoir un service.
Et c'est pas beaucoup plus cher à la rigueur qu'une école privée en tant que telle. Mais l'important, c'était de pouvoir justement développer des outils, développer des habiletés. Si le parent se sent capable d'enseigner les maths et le français, il y a tellement de beaux livres qui ont été créés, qui sont disponibles, d'ailleurs, que les enseignants utilisent parfois dans les écoles.
Ouais.
Il y a une manière de pouvoir le faire. Là où ça devient
plus
difficile.
Mais il faut quand même des compétences, je pense. Parce que quand ils sont plus jeunes, mais à mesure que ça grandit, je veux dire, j'ai fait des trucs sur les devoirs, des entrevues sur les devoirs. Les parents m'appellent pour me dire, mais à un moment donné, à partir de secondaire 2, on est perdu.
Oui, oui. Donc, parce que tout l'aspect des mathématiques et des sciences peuvent être problématiques en tant que telles.
On a Sonia qui est avec nous. Bonjour, Sonia.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, écoutez, moi, j'ai 2 garçons qui sont présentement à l'école publique au primaire, donc un garçon de 7 ans et un plus vieux qui est en 4e année qui va bientôt avoir 10 ans. Moi, j'éprouve là, dans la dernière année là, particulièrement un problème avec le système public et je suis moi-même un produit de l'école publique et je songe sérieusement à retirer mes enfants pour les envoyer vers un réseau privé. Et jamais j'aurais pensé faire ça, mais j'en suis rendue là.
Ouais.
Parce que moi, mes 2 petits garçons, ils performent à l'école. Et c'est malheureux, mais aujourd'hui, il y a plusieurs enfants qui éprouvent de la difficulté. Vous avez parlé tantôt qu'ils sont dépistés de manière plus précoce. C'est tant mieux. Mais ce que ça fait, c'est que... Tout le monde est mêlé dans les mêmes classes et les meilleurs, ça les tire constamment vers le bas parce qu'ils doivent suivre. Tu sais, le professeur ne peut pas aller à 2 rythmes pour les enfants. Il y en a tellement dans les classes et ils ont besoin d'aide, ces enfants-là, et on ne veut pas les ostraciser, les mettre de côté, mais pour les meilleurs, c'est pas bon. En tout cas, moi, je trouve que ça nuit à mes enfants.
Merci Sonia.
Pour ces élèves-là, effectivement.
On va aller à la pause. Au retour, Noémie Berlus, présidente de l'Association québécoise pour l'éducation à domicile, va nous dire un peu comment on va s'organiser. Disons là, que comme Stéphanie, ça vous songez peut-être à faire l'école à la maison à vos enfants. Qu'est-ce qu'il faut? Comment s'y prendre? Qu'est-ce que ça demande comme papier, comme connaissance? On va répondre à toutes ces questions-là. Puis bien sûr, on prendra vos commentaires. Est-ce que vous pensez que le fait que de plus en plus de parents songent à finalement éduquer leurs jeunes chez eux et non pas dans un cadre d'école, que ça soit public ou privé. C'est vraiment pas on fait pas ce débat-là public-privé ce matin. C'est vraiment le système d'éducation, le moule, le format, le cadre. Est-ce que tout le monde pareil, ça peut être bon pour votre enfant aussi ou vous pensez qu'effectivement l'école mériterait là, qu'on vise une vraie réforme scolaire. Là. Il y a même des exemples au Québec où il y a des profs qui ont dit « Moi, j'ai enlevé les bureaux, j'ai mis des gros ballons, les jeunes sont assis dessus, ils ont du plaisir, puis la concentration a augmenté. S'ils veulent sortir, parce qu'à un moment donné, ils sortent de la classe, ils reviennent. » Pourquoi pas ça? Après tout, là, on est libre. L'humain est un être qui tend vers la liberté, non? Donc,
en fait, on le responsabilise plutôt que le conformer.
Et on va à la pause là-dessus. On parle de la tentation qu'ont de plus en plus de parents québécois d'envoyer leurs enfants, non pas dans une école publique, privée, mais de les garder chez eux, de les éduquer finalement dans le confort de la maison. La maison, c'est sûr que le foyer, c'est quelque chose de rassurant, c'est un cocon. Souvent, ce sont les parents, quand ils sont petits, là, qui décident de s'occuper de l'éducation. Évidemment, faire l'école à la maison, il faut quand même le reconnaître, c'est peut-être pas donné à tout le monde. Avec nous, Noémie Berlus, qui est présidente de l'Association québécoise pour l'éducation à domicile. Bonjour, Noémie.
Bonjour.
Vous-même, vous êtes la mère d'une fille de 8 ans, d'un garçon de 12 ans. Vous avez fait les apprentissages naturels de vos enfants. Donc, en théorie, il serait en deuxième année, première année, deuxième année pour votre fille de 8 ans, puis première secondaire pour votre fils de 12 ans.
Oui, s'il était dans le système scolaire, oui. Oui.
Et donc, là, vous, comment vous avez organisé ça chez vous, Noémie?
Ben écoutez, on a changé, on a fait plusieurs différentes approches. On a essayé avec l'école privée, publique, publique en premier, après ça privé. Après ça, on a fait l'école à la maison où on essayait de vraiment reproduire le programme à la maison. Et après ça, on a décidé de faire les apprentissages naturels. Alors, on a vraiment tout essayé avant de trouver ce qui fonctionnait pour nous. Et je vais vous dire que dans le monde de l'éducation à domicile, il y a autant d'approches éducatives et de façons de s'organiser qu'il y a de familles.
Mm-hmm.
Donc, ce que je vais vous dire à propos de moi, c'est pas représentatif, là. Ça veut pas dire que tout le monde fait la même chose.
C'est ça.
Mais nous, maintenant, les apprentissages naturels, la façon qu'on le fait, c'est que on suit vraiment les intérêts des enfants. Les enfants se réveillent le matin et ils décident des choses qu'ils veulent faire. Et moi, ma job, c'est de les aider à le faire, de leur amener des opportunités, des recommandations, des suggestions. Je les soutiens dans les apprentissages qu'ils vont faire.
Mais dites-moi, bon, dans la vraie vie, là, parce que moi, j'en ai des enfants aussi, puis on est passé par là, bon, 7h moins quart, faut se lever, faut prendre son petit déjeuner, hein, ça me tente pas, est-ce que je peux rester couché encore 5 minutes? Comment on explique à son enfant qui est à la maison, qui n'est pas dans un cadre scolaire, il faut que tu te lèves pareil, il faut que tu t'habilles, il faut que tu déjeunes. Non, Thierry me dit, on ne dit pas, il peut rester couché jusqu'à midi.
Il peut faire ça,
Thierry.
Bien sûr, mais un enfant, juste, pardon Noémie.
Thierry Pardo qui est avec nous, Noémie.
Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun enfant qui va rester de 8 ans, de 10 ans, qui va passer. C'est un peu comme je disais tout à l'heure, quand vous partez en voyage avec vos enfants, il n'y a pas un enfant qui ne veut pas vivre son voyage et rester toute sa journée au lit.
Donc, il n'y a pas de pression,
ça, c'est un fantasme, en fait, de parents, mais un enfant, il va se lever quand il a plus sommeil. Un enfant de 10 ans qui dort à 8 heures du matin, c'est pas un fainéant, c'est un enfant qui a sommeil.
Peut-être j'étais plus dans les ados, là, excusez-moi.
Mais Noémie, en fait, les ados, ça s'explique pourquoi? Parce que le taux de mélatonine ne se libère pas de la même manière à l'adolescence qu'à l'âge adulte ou à l'enfance. Donc à ce moment-là, elles se libèrent plus tard et plus lentement. Donc ils ont besoin de plus de sommeil le matin. Donc si on les réveille à 6 heures le matin pour qu'ils soient à l'école à 8 heures, on va avoir tout le temps des enfants qui ont 2 ou 3 heures de sommeil en manque. Donc un degré d'une disponibilité intellectuelle, une fatigue mentale beaucoup plus rapide et une difficulté de s'impliquer parce qu'ils sont fatigués, sans compter la problématique de gestion du stress.
Fait que Noémie, comment vous gérez ça, vous? Ou peut-être que c'est pas une problématique chez vous, justement?
Non, ben écoutez, c'est une problématique c'est pas une problématique parce que quand il y a une activité pour laquelle il faut qu'on se lève tôt, c'est une activité que les enfants ont choisie, auxquelles ils veulent participer. occupés, ils ont choisi la conséquence qui fait qu'il faut qu'on se lève tôt. On est parti en voyage, à un moment donné, il a fallu se réveiller à 5 heures du matin. Les enfants étaient animés par l'idée de se réveiller à 5 heures. Je pense que c'est très difficile de se réveiller le matin quand ça ne nous tente pas de faire les activités de la journée.
Oui, tout à fait. Comment ça s'organise, là? On avait tout à l'heure une auditrice, Stéphanie, qui songe faire l'école à la maison à ses enfants ou peut-être leur donner un cadre scolaire à domicile. Elle disait même avec une amie, peut-être une cousine, on regardait ça. Elle a passé une partie de la nuit à regarder les programmes, même pour peut-être elle-même se diplômer en éducation. Qu'est-ce qu'un parent qui nous écoute, qui est insatisfait du système scolaire de son jeune, comment il peut s'organiser pour... parce qu'il faut demander une dérogation, je pense. Aujourd'hui, l'école publique est quand même obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc, un parent qui veut... Non, c'est pas vrai, ça?
Non, l'école n'est pas obligatoire, hein, mais Noémie va en parler.
Ah, l'école n'est pas obligatoire?
C'est l'éducation qui est obligatoire.
Oui, oui, d'accord. Exact. OK, excusez-moi. Oui.
Et donc, l'éducation peut se faire autant à la maison qu'à l'école. Et dans les chartes canadiennes et internationales, c'est le parent qui a le premier choix du type d'éducation à donner à son enfant. Mm-hmm. Alors, quand le parent envoie son enfant à l'école, il délègue la responsabilité d'éduquer son enfant à l'école. Mais le parent peut choisir de ne pas déléguer cette responsabilité et de la garder. C'est le parent qui est responsable d'éduquer son enfant.
Et donc, les parents, parce que je pense que la loi a changé il y a quelques temps, oui, et là, les parents sont désormais obligés de transmettre un avis écrit à la commission scolaire de leur coin pour dire... Ben mon enfant va rester à la maison, va faire l'école à domicile, il n'ira pas dans votre école.
Oui, c'est ça. Alors, il y a différentes étapes qu'il faut suivre. Il faut envoyer un avis, il faut expliquer notre projet d'apprentissage. On a un état de la situation, un bilan de mi-parcours à remettre au milieu de l'année. Il faut rencontrer quelqu'un du ministère et on a une évaluation à faire à notre enfant pendant l'année. Et à la fin de l'année, on fait un bilan de fin de projet. Alors, en gros, là, c'est ça, nos responsabilités légales.
Un projet d'apprentissage, ça ressemble à quoi? Présenter un projet d'apprentissage?
Ben, dans la loi, puis ça, les gens qui veulent en savoir plus peuvent aller sur notre site, là, à aqued.qc.ca. Dans la loi, ça spécifie ce qu'il doit avoir dans le projet d'apprentissage. Alors, on a des critères comme il faut que le parent explique comment l'enfant va pouvoir progresser en français, en mathématiques, dans une autre langue, dans les grands domaines d'apprentissage, dont les sciences et technologies, l'univers social, le développement de la personne. Là, j'en oublie peut-être, là, mais tout ça, c'est...
Quel matériel sera utilisé aussi.
Donc, il y a quand même une évaluation qui se fait, vous dites, donc deux fois à mi-parcours, à mi-année et à la fin de l'année, Noémie Berlus?
À la mi-année, il y a un bilan. Alors, ouais. Le parent doit faire un bilan de la progression. Mais pendant
c'est sûr qu'il ne coulera pas son enfant, là?
Oui, mais c'est pas une question de couler ou pas. Non, parce qu'à l'école, il faut s'entendre que proche de 50% des garçons dans les écoles publiques francophones ne décrochent pas un diplôme après 5 ans d'études.
C'est incroyable, hein? 50%.
T'sais, il faut pas donner plus de poids aux parents. Quand un enfant coule à l'école, on blâme pas le professeur. Ben à la maison, on peut pas blâmer le parent parce que l'enfant a pas passé un examen ou fait que l'idée, puis la loi est bien faite pour ça, c'est que l'enfant doit progresser. Mm-hmm. Et c'est ce qu'on s'attend. Fait que oui, il y a des enfants qui ont des difficultés, puis c'est pas. Puis en fait, surtout en école maison, il y a beaucoup de parents qui sortent leurs enfants de l'école parce que l'école a pas le soutien ou les services nécessaires pour soutenir un enfant avec des difficultés.
Est-ce qu'il y a un moment où on peut le faire à n'importe quel moment dans le parcours du jeune où c'est mieux de faire l'école à la maison? Par exemple, est-ce que vous diriez, Noémie Berlus, c'est mieux peut-être dès le début? Là, il est allé en prématernelle, maternelle. On parle même de maternelle 4 ans maintenant. Donc, on veut scolariser les enfants plus jeunes. Là, on est dans une déscolarisation, en tout cas dans un réseau qui n'est pas celui des parents. Donc là... Est-ce que c'est mieux de le faire quand il y a 5, 6, 7, 8 ans à partir d'un... Mais par exemple, un jeune au secondaire là, qui va d'échec en échec, puis visiblement, là, l'école, ça marche pas pour ce jeune-là. Est-ce qu'en secondaire 3, on peut sortir son jeune puis dire, ben 4 et 5, tu vas le faire à la maison? Comment le parent peut s'y retrouver là-dedans puis prendre le bon choix?
Il n'est jamais trop tard.
Thierry,
je le dis, il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse.
Oui, non, c'est voilà. Sûr.
Donc,
j'aimerais entendre Noémie Berlus puis peut-être mes invités. Après, on fera un tour de table. Noémie, là-dessus?
Ben, moi, ce que je dirais, c'est que le parent devrait être à l'écoute des besoins de l'enfant. Je ne crois pas qu'il y a une solution parfaite pour tous les enfants.
Ouais.
Et c'est ce qu'on essaie d'éviter en faisant l'éducation à domicile, c'est de pas mettre les enfants dans un moule. Fait que si je vous disais, ah, oh, c'est à 7 ans, ben, pour certains enfants, à 7 ans à la maison, ça va être mieux. Puis pour certains, ça pourrait être mieux à l'école.
Mm-hmm.
Il y a pas, l'idée, c'est qu'on veut une variété d'approches éducatives pour permettre de combler aux besoins des enfants. Pour chaque enfant unique a des besoins différents, puis le parent devrait être à l'écoute. Et si l'enfant est pas bien, que ce soit à la maison ou à l'école, le parent devrait essayer de trouver des solutions. Puis je vous encourage, parce que moi, j'ai eu un enfant qui était pas bien, puis je n'ai essayé des différentes affaires, puis il y a une solution à quelque part. Il faut juste vraiment s'ouvrir puis penser à toutes les options possibles.
Mm-hmm. Donc là, pour le parent, il nous reste peu de temps, mais peut-être que je peux poser la question après la pause, ça va aider Jean-Christophe. On va aller à la pause. Vous restez avec nous, Noémie, parce que je veux vraiment qu'on clarifie toute la question de les parents qui veulent le faire chez eux, comment s'y prendre véritablement dans les faits. On revient tout de suite après. On revient avec Noémie Berlus, qui est présidente de l'Association québécoise pour l'éducation à domicile. Et Joël Monzy me disait pendant la pause que si votre association, Noémie, fait beaucoup pour aider justement les parents cadrés. Alors, je vais redonner le site, c'est aqed.qc.ca. Vous pouvez faire aussi tout simplement Association québécoise pour l'éducation à domicile. Donc, comment un parent s'y prend-il pour aujourd'hui commencer le processus s'il veut garder son enfant à la maison et qu'il y ait l'école à domicile?
Et premièrement, un parent peut sortir son enfant de l'école à n'importe quel moment de l'année. Il n'y a pas de date limite.
Exact.
C'est juste que les obligations changent selon la date à laquelle on a décidé de sortir notre enfant. Fait que moi, je dirais aux parents, la première chose à faire, c'est faire de la recherche et s'informer de ses options. Et si l'enfant est en état de crise, là, ben on le sort tout de suite. On a quand même 10 jours d'être obligé d'envoyer l'avis au ministère. Fait qu'on peut sortir notre enfant en crise de l'école, puis prendre 10 jours pour faire notre recherche, puis finalement décider d'envoyer notre avis. Puis après ça, on a 30 jours pour faire un projet d'apprentissage. Fait que le parent a le temps de prendre une respiration puis d'aller faire sa recherche pour voir c'est quoi son approche éducative.
Donc, vous dites c'est 2 mois à peu près, ce que vous dites, malgré tout le fonctionnement?
C'est un mois.
Un mois, donc OK, j'avais compris qu'il y avait 2 fois 30 jours.
Non, c'est 10 jours
pour
30 jours.
10 jours et 30
jours. Ah, 10 jours et 30 jours, pardon. OK,
oui.
Donc 40, 45 jours, bon. Évidemment, ça, si c'est dans les temps, parce que vous dites on peut retirer notre enfant à n'importe quel moment, mais en même temps, il y a bien des parents qui vont dire « je voudrais pas qu'il perde son année non plus ».
Bien, le concept d'année va vraiment
changer
à la maison.
Ouais, ouais.
Par exemple, moi, mon fils, il arrivait à faire 2 années en une.
Voilà. On gagne du temps. Oui.
Bien, c'est certain.
Ouais.
On en fait beaucoup plus en quelques heures, à un, que quand on est 30.
C'est sûr. Je vais absolument, il nous reste 2 minutes, mais il y a Émilie qui nous appelle. Émilie a 13 ans. Bonjour, Émilie.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, donc t'écoutes notre discussion, puis toi, tu as eu l'école à la maison. Tu l'as encore en ce moment?
Oui, ben dans le fond, j'ai fait l'école à la maison depuis que je suis toute petite. J'ai décidé de retourner à l'école privée. Dans le fond, j'ai toffé 24 jours, puis je suis revenue à la maison parce que ça fitait juste pas pantoute. J'ai essayé de faire mon possible, puis vous voyez, ça n'a pas fonctionné. Les profs, ils enseignent toutes de la même manière, puis pour moi, ça fonctionnait juste pas. Puis je trouve que c'est important aux enfants d'apprendre de leur manière. Puis c'est pour ça que je suis revenue à la maison, puis je suis plus heureuse comme ça.
Et qui te fait l'école chez toi?
Mais c'est ma mère, Stéphanie Charest.
Mm-hmm.
Oui, puis mon père, il m'aide avec les mathématiques.
Et ta maman, est-ce qu'elle est enseignante? Est-ce que...
Dans le fond, elle s'aide avec les corrigés, avec les tests aussi. Puis,
et tout se passe bien?
Hein?
Et tout se passe bien?
Oui, tout se passe bien. Oui, vraiment beaucoup.
Et est-ce que tu as l'impression qu'au niveau de la sociabilisation, parce qu'on n'a pas parlé, mais il y a bien des parents qui vont dire ben oui, mais il n'y aura pas d'amis, parce que l'école, c'est un milieu social quand même. Comment tu vois ça, Émilie?
Ben dans le fond, moi, l'après-midi, je vais à Thérèse Martin faire des entraînements. Fait que moi, je trouve ça vraiment le fun parce que je suis capable de faire les deux.
Tu fais du sport, donc tu fais des entraînements sportifs, tu veux dire?
Oui, c'est ça.
Ouais.
Puis souvent, c'est vraiment le fun parce qu'on est capable de voir d'autres gens qui font l'école à la maison, fait qu'on fait des rencontres sociales puis tout, fait que moi je manque vraiment pas de social. Puis même que je trouve que quand on allait à l'école, ça détruisait un peu la facette du social parce que tu sais c'est niaiseux là, ça parle pas des belles affaires puis c'est pas tant le fun que ça là.
Écoute, merci, Émilie. J'adore ce témoignage parce que d'abord, tu as 13 ans. Je pense que on peut voir qu'il n'y a pas trop de lacunes. En tout cas, a priori, elle s'exprime très bien. Son idée est très claire. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir pris le temps de nous parler, de témoigner de ça. Merci beaucoup, Noémie Berlus, Association québécoise pour l'éducation à domicile. Il nous reste 30 secondes. Joël Monzé.
Moi, ce que je dirais, c'est que les enfants n'évoluent pas tous à la même vitesse. Il y a des rythmes biologiques. Et quand l'administration publique, c'est ça ce que je voulais expliquer tantôt, quand l'administration publique organise quelque chose, elle ne peut pas tenir compte de toutes les particularités. Et parfois, oui, la solution de l'école à la maison peut devenir une option pour les parents qui peuvent se le permettre.
Mm-hmm. Merci beaucoup, Claudine Potvin.
Bien, c'est ça. Il faut comprendre aussi que l'école à la maison, bien que ça répond à des besoins qui sont là, nous, on le fait, il y a des parents qui ne peuvent pas se permettre parce qu'il faut avoir une réalité financière de pouvoir aussi être capable, ouais. Particulièrement, alors il faut se donner les meilleurs moments,
Thierry,
les meilleurs moyens.
Oui, juste pour finir, bien évidemment, quand on dit on ne peut pas se le permettre, moi, je pose souvent la question, mais alors qui c'est qui peut vous le permettre? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Qui c'est qui autorise les permissions chez vous? Et je pense que c'est une réflexion globale à avoir sur la société, sur notre famille.
Regardons nos enfants. Enfin, voyons s'ils sont bien, s'ils sont heureux. Ça devrait être notre premier critère. Merci à tous les trois. Vraiment, vraiment intéressant cette discussion. On s'arrête ici, très courte pause, et on se retrouve après les nouvelles. Restez là, tout le monde.